Chapitre 10. L'attentat de Damien contre Louis XV. À Versailles, un climat de guerre a terni le Noël 1756 et le Nouvel An 1757. Guerre à l'extérieur contre l'anglais, depuis que s'est opéré sous l'égide de Madame de Pompadour le plus surprenant des retournements d'alliance, désormais la France des Bourbons va faire ami-ami avec l'Autriche des Habsbourg. Guerre surtout à l'intérieur. Le Parlement de Paris et d'autres cours souveraines, le Parlement de Rouen, celui de Bordeaux et celui de Rennes notamment, s'étant lancés dans un bras de fer avec la monarchie. Dans la caste parlementaire, avide de pouvoir et d'autonomie, le nom de Louis XV est devenu synonyme de tyrannie. Et pour la nouvelle année, nombreux sont les cénacles élégants où l'on n'a pas bu à la santé du roi, mais à son malheur. Qu'importe, la France aime les réjouissances carillonnées et le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, les pâtissiers ont concocté la traditionnelle galette. Les marchands de volailles ont bourré leur devanture de chapons gras et de poulardes. On s'apprête partout à tirer les rois, y compris à la cour. Le roi Louis XV a 47 ans. Il est plus beau, plus majestueux que jamais, même s'il traîne avec lui depuis quelque temps un air de lassitude. Sa Majesté s'est retirée pour quelques jours à Trianon, plus tranquille que le Versailles de son aïeul, et surtout plus facile à chauffer par grand froid, car il gèle à pierre fendre en ses premiers jours de 1757, le givre et la glace blanchissent les bâtiments de mansarde et les perspectives de Le Nôtre. Dans l'après-dîner de ce 6 janvier, le roi, père attentif, s'est vêtu chaudement et s'est fait conduire au grand château pour embrasser une de ses filles demeurées à Versailles. Madame Victoire de France était en effet trop grippée pour avoir suivi la cour. Louis XV a effectué ce petit déplacement en compagnie du dauphin. Avant de regagner Trianon, il passe une vingtaine de minutes avec son fils dans son cabinet d'angle pour y consulter des plans de chasse. À présent, il n'est pas loin de 6 heures. Déjà, la nuit s'installe, plus glaciale que jamais. Dehors, valets de pieds et gardes françaises ont allumé des flambeaux entre le vestibule et le carrosse du roi, qui attend pour repartir à l'entrée du passage menant au parterre du Nord. Le roi Louis, ayant le dauphin à sa gauche et derrière lui le duc d'Ayen, capitaine de ses gardes du corps, redescend déjà son escalier privé, le petit degré. Il traverse d'un bon pas le vestibule et, toujours emmitouflé, sort pour regagner sa voiture à la lueur des torches. C'est alors qu'une silhouette intruse se fraye un passage et, comme une ombre surgit de tout ce monde hostile, se précipite vers le monarque et le bouscule. L'inconnu n'a pas ôté son chapeau. Le capitaine des gardes le lui fait sèchement observer. « Duc d'Ayen, l'interrompt le roi, on vient de me donner un coup !» L'agresseur est aussitôt maîtrisé, tout va vite. Louis XV ayant porté machinalement la main à son côté, la retire ensanglantée. « Je suis blessé, lance-t-il, arrêtez donc cet homme !» Choqué, le roi conserve la présence d'esprit d'en appeler à la sécurité du dauphin. Plus tard, on affirmera qu'il a voulu faire ainsi diversion pour qu'on ne tue pas le coupable. Impossible à la vérité de saisir dans l'affolement général ses vraies motivations. On soutient le roi pour le remonter chez lui au premier étage, tandis qu'il réclame déjà un prêtre et un chirurgien. « Oh, je n'en reviendrai pas » soupire-t-il. En le déshabillant, on constate que du sang a coulé largement sur sa chemise. La chambre n'ayant pas été préparée, l'on étend Louis à même le matelas. En l'absence du chirurgien Lamartinière, pour l'heure à Trianon, c'est celui de la dauphine qui accourt prodiguer les premiers soins. Le roi, heureusement pour lui, portait plusieurs épaisseurs de futaine, de soie, de velours, de sorte que la blessure entre la 4e et la 5e côte, du côté droit, donc loin du cœur, cette blessure se révèle assez superficielle. La première saignée n'en provoque pas moins chez le patient une légère perte de connaissance et l'on envoie l'aumônier de quartier quérir les saintes huiles. Arrive enfin la martinière, qui sonde la plaie et rassure tout le monde sauf le roi. L'agresseur n'a fait usage que d'un canif pliant à 2 lames. Or, il a choisi la plus petite, 8 de nos centimètres. Reste l'éventualité d'un empoisonnement de cette arme modeste. Elle sera bientôt écartée. Pendant que commence l'enquête, l'abbé Soldini entend Sa Majesté en confession pendant près d'une heure, seul à seul avec lui sous les grands rideaux du baldaquin. Le confesseur en titre prendra plus tard le relais, après que la reine et mesdames, éplorées, saisies d'angoisse, seront arrivées de Trianon. Affreuse nuit. L'attentat ayant été commis au sein d'une résidence royale, La conduite de l'enquête relève a priori d'une juridiction spéciale, la prévôté de l'hôtel. L'agresseur doit donc être détenu dans une geôle du bailliage de Versailles. Mais dans un premier temps, c'est au rez-de-chaussée du château, dans l'antichambre du capitaine des gardes, qu'il a été poussé sans ménagement. On l'interroge, on le moleste, on apprend sans peine qu'il se nomme Robert-François Damien, qu'il est âgé de 42 ans, sert comme laquais dans diverses maisons, vient de l'Artois, où son père était un fermier déclassé. Sur ordre du garde des Sceaux, Jean-Baptiste Machaud d'Arnouville, on fait rougir des pinces pour lui brûler les pieds. Inutile cruauté, Damien, qui parle sans qu'on l'y force, affirme avoir agi seul. Il n'en démordra jamais. Toute la nuit, des messagers partent de Versailles à destination des grandes villes du royaume et des cours d'Europe. À Paris, la terrible nouvelle survient à l'heure de se mettre à table. Elle a pour effet immédiat d'interrompre la fête des rois et jette une partie de la population dans les rues. « Paris, près d'être pris d'assaut, n'aurait pas été plus agité », raconte le mémorialiste du fort de Cheverny. « Toute la nuit, on n'entendit que rouler des voitures et partir des courriers. » Une foule s'étant assemblée dans la cour du gouverneur de la capitale, on y fait brûler des bûchers pour lutter contre le froid. La consternation était générale, tout le monde était en pleurs dans les églises, note l'avocat Barbier. En effet, à l'instar de ce qui s'est produit en 1744, lors de la maladie du roi à Metz, les braves gens émus viennent spontanément prier pour la survie du souverain, du moins jusqu'à ce que parviennent dans la matinée du vendredi 7 des nouvelles rassurantes. Louis XV, naturellement, est tenu informé de cet élan d'émotion populaire, mais il n'y trouve qu'un maigre réconfort. Le geste de Damien illustre jusqu'où peut aller la haine que lui voue toute une frange de l'opinion. Surtout, le roi très chrétien se convainc rétrospectivement d'être passé près de l'enfer. Ne mène-t-il pas en secret la plus dissolue des vies privées ? Au chirurgien qui constatait que la blessure n'était pas profonde, il a répondu « Elle l'est plus que vous croyez, car elle va jusqu'au cœur ». La culpabilité aidant, ce coup de canif sacrilège a ravivé en lui des idées noires jamais évanouies. Le duc de Luynes l'affirme, je cite, « Il est très certain qu'il a dit qu'il voudrait qu'il lui en eût coûté un bras et que ceci ne fût pas arrivé ». La cour, inquiète, fait le siège de l'appartement privé de Sa Majesté. On murmure, on s'interroge du regard. La plus touchée par la situation est celle qui a tout à perdre à l'affaire. La favorite en titre, celle que ce pays-ci n'appelle que la marquise. Madame de Pompadour, recluse dans son appartement du rez-de-chaussée sur le parterre du Nord, fait les 100 pas et se ronge les sangs. Et si le roi la renvoyait exactement comme il avait congédié à Metz Madame de Châteauroux ? Ses amis peinent à la rassurer. Un matin, la maréchale de Mirepoix surprend la marquise au milieu d'un fatras de bagages. « Qu'est-ce donc, madame, que toutes ces malles, vos gens me disent que vous partez ?»« Hélas, ma chère amie, le maître le veut à ce que m'a dit monsieur de Machaut. Et son avis, à lui, quel est-il ? Que je parte sans différer. Votre garde des Sceaux veut être le maître et il vous trahit. Qui quitte la partie, la perd. » Conseil salutaire d'une amie bien inspirée. Quelques jours plus tard, le roi réservera sa première visite à Madame de Pompadour, qu'il viendra en robe de chambre surprendre chez elle. Et c'est Machaut d'Arnouville qui fera les frais de son zèle. Le roi le congédiera, de même qu'un autre ministre, le comte d'Argenson, ennemi déclaré de la favorite. De sorte qu'il est permis de les regarder tous deux comme des victimes collatérales de l'attentat. Mais que devient celui par qui l'impensable est arrivé ? Robert-François Damien semble à présent confus de la secousse qu'il a générée. Il a fait transmettre à sa victime une lettre assez touchante, accablante à vrai dire pour un certain nombre de parlementaires qui, sans le savoir ou le vouloir expressément, lui ont inspiré son geste insensé. Oui, plus on l'interroge, et plus il apparaît que ce pauvre R s'est laissé exalter par la colère ambiante. À force de servir en tant que laquais dans les milieux parlementaires, Damien a fini par faire sienne les imprécations incessantes qu'il a pu y entendre à l'encontre du souverain et les malédictions de toutes sortes, jusqu'à les prendre au pied de la lettre. Par quel accès de folie est-il passé à l'acte ? Les transgressions de cet acabit conservent leur part de mystère. Damien quitte Versailles. La prévôté ayant achevé d'instruire, on le transfère à Paris dans la nuit du 17 au 18 janvier. À la conciergerie, la cellule qui l'attend est celle où l'on avait jeté Ravaillac au siècle précédent, comme si le sort de l'accusé était déjà scellé. De son côté, Louis XV ferait grâce bien volontiers à celui qu'il se complète à nommer « ce monsieur ». La lettre patente de renvoi le précise. Les sentiments de religion dont nous sommes pénétrés et les mouvements de notre cœur nous porteraient à la clémence. Mais nos peuples, à qui notre vie n'appartient pas moins qu'à nous-mêmes, réclament de notre justice la vengeance d'un crime commis contre des jours que nous ne désirons conserver que pour leur bonheur. Autrement dit, il faut compter avec l'émotion populaire, ainsi que, disons-le, avec le zèle hypocrite des parlementaires. En effet, les révélations faites par Damien à propos de la haine de ces messieurs envers le roi sont à la fois si graves et si gênantes qu'il convient sans doute d'étouffer le scandale en confiant le jugement du coupable à la grande chambre du Parlement de Paris. De fait, il apparaît bientôt que celle-ci, obsédée du besoin de se dédouaner, a bien l'intention de réserver au régicide la sanction la plus terrible, la plus cruelle de l'arsenal judiciaire. Robert François, après avoir reçu les questions ordinaires et extraordinaires et avoir fait amende honorable, devra être tenaillé en diverses parties du corps, puis démembré à quatre chevaux en place publique, supplice atroce, interminable. Dans sa magistrale biographie de Louis XV, Michel-Antoine n'hésite pas à l'écrire, je le cite, « Cette dureté impitoyable visait à faire de Damien un bouc émissaire, innocentant la magistrature de ses péchés. En outre, ces châtiments horribles semblaient l'application de coutumes pénales des peuples barbares qui avaient jadis envahi la Gaule, et cette référence « au temps de nos rois germains » devait plaire à certains juges. » Une telle rigueur n'empêche nullement les parlementaires de tenir ferme sur leurs revendications d'indépendance face au pouvoir royal. Ceux qui avaient cru que les magistrats profiteraient de l'occasion pour amoindrir leurs revendications en seront pour leurs frais. Que l'on punisse Damien, soit, mais surtout que personne ne songe à réhabiliter celui qui n'est plus le bien-aimé.